Eh bien, bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM, auditeurs, auditrices. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, pour une nouvelle émission de philosophie au présent au sein d'Aligre FM, dans un très très beau studio. Voilà, merci à Armand Gury, la technique, qui nous permet aujourd'hui de faire une émission avec Nathalie Perrin, moi-même, et Isabelle Raviolo, que nos auditeurs connaissent. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie Perrin, bonjour à tous.
Voilà, alors on rappelle que cette émission Philosophie au présent est un partenariat qui maintenant a quelques années. Isabelle Raviolo et moi-même avions entamé pour le Collège international de philosophie le démarrage de cette émission avec Aligre FM qui nous accueille dans ses studios depuis, oh là là, maintenant 6-7 ans, facile, les auditeurs nous connaissent, nous excusons auprès des auditeurs de ne pas avoir pu faire d'émission avant, mais nous connaissons des petits problèmes de restructuration au sein de notre équipe. Nous serons amenés à en reparler, mais nous sommes ravis d'être là à l'antenne pour vous parler aujourd'hui avec Isabelle Raviolo, hein, qui nous a proposé de faire une émission autour, avec un titre ambitieux et ô combien actuel, on va le rappeler à l'instant, l'étincelle de l'âme ou l'humanité magnanime dans les tableaux de Georges de Latour. Une lecture écartienne des tableaux nocturnes de Georges de Latour. Isabelle, un titre absolument magnifique. J'en profite pour rappeler aux auditeurs que vous êtes à l'origine de l'écriture de deux ouvrages. Un pour lesquels les auditeurs, vous avez déjà entendu « Corps et âme, penser l'incarnation » chez Maître Eckhart, qui était paru chez Hermann Collection De Visu. Hein, on se souvient que vous étiez venu l'année dernière, me semble-t-il, nous en parler. Donc vous êtes spécialiste de Maître Eckhart. Et puis votre dernier ouvrage, François Éclair, pièce en deux tableaux, suivi de Nuits étoilées, aux éditions La Dame d'11h, collection Calice. Donc là, on est vraiment dans des ouvrages très récents. Ce dernier ouvrage est de 2025, celui Corps et âme, pensée, l'incarnation chez Maître Eckhart, datait de 2024 aux éditions Hermann. On mettra évidemment ces références sur le site d'Aligre FM. Alors Isabelle, vous me permettez de faire peut-être une petite présentation très rapide de Maître Eckhart et de Georges de Latour pour un petit peu permettre à nos auditeurs de mieux écouter ce qui va se dire après. Nous disons d'emblée que votre émission, Isabelle Raviolo, puisque vous en êtes l'autrice, s'inscrit aussi dans une exposition au musée Jacquemart André. Voilà, on invite les auditeurs à aller voir les manifestations. Magnifique tableau. J'ai vu moi-même aussi que Arte proposait en ligne de voir quelque chose, de voir un reportage, un documentaire autour de Latour. Et puis on renvoie nos auditeurs aussi à tous les réseaux qu'ils connaissent. Voilà, en ce moment on parle beaucoup de Georges de Latour. Bon, alors juste petite présentation pour Maître Eckhart, voilà, dont on sait finalement assez peu de choses, mais alors déjà qu'il est dans une voie mystique, hein, c'est un grand philosophe qui a depuis quelques années déjà été remis au goût du jour. C'est un dominicain allemand du Moyen-Âge. On pourrait dire sa pensée, sa philosophie repose sur deux piliers. L'importance du détachement qui permet la place dans l'âme, de laisser la place dans l'âme à Dieu et ainsi de progresser dans la vie spirituelle. Et puis une autre idée importante, hein, la foi en la Trinité, hein, tout entière, qui vient habiter l'âme de celui qui va s'abandonner à Dieu. On verra dans quelle mesure il y a un rapport que vous allez établir avec Georges de Latour. Donc on sait en tout cas de Maître Eckhart qu'il a fait, qu'il est né à Hochheim en Allemagne, qu'il a fait des études de théologie à Paris et à Cologne, qu'il est entré dans l'ordre des dominicains, qu'il commence à publier des entretiens spirituels qu'il a avec ses frères de l'ordre, hein, parce qu'il est devenu entre-temps prieur d'Erfurt. Bon, il a enseigné à Paris, il est élu provincial de Saxe, puis vicaire en Bohême et enfin en Teutonie. Bon, ça a été un maître spirituel très influent et reconnu, mais on sait aussi qu'il a eu maille à partir avec l'Inquisition. Notamment, alors l'accusation dont il a fait l'objet, c'est l'influence supposée de certaines de ses propositions sur les béguines, j'ai appris un terme, c'est-à-dire ces femmes mystiques caractéristiques de la vie spirituelle du Moyen-Âge rhénan. Alors je disais influence considérable, il a été condamné par le pape Jean XXII, il va réfuter ces accusations portées contre lui, mais néanmoins il termine dans un isolement complet au point qu'on ignore véritablement la date de son décès. On sera amené, vous serez amené à reparler, Isabelle Raviolo, de Maître Eckhart et de sa mystique. Moi, je pense que c'est vraiment une des questions que je vous poserai. Qu'est-ce qu'on entend par mystique ? Et petite présentation de Georges de Latour, puisque c'est, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la liaison que vous allez opérer entre la philosophie de Maître Eckhart et les peintures de Georges de Latour. Alors, Georges de Latour, vous allez le rappeler, on est quelques siècles plus tard, hein, on se retrouve en 1593. Il est né à Vic-sur-Seille, en Lorraine, il est issu d'une famille de boulangers. Il y a des dates marquantes, alors là, je me permets de faire référence au site du musée Jacques Marant André, hein, auprès de nos auditeurs pour avoir ces quelques dates importantes. En 1638, il y a un incendie qui est provoqué par les troupes françaises pendant la guerre de 30 ans, qui détruit sa maison, son atelier et une partie de ses œuvres. Il va trouver refuge plus tard à Nancy avec une partie de sa famille. En 1639, donc on est un an plus tard, pourtant c'est un peintre des petites gens, mais il va devenir peintre ordinaire du roi par Louis XIII et il va loger au Louvre et il est officiellement reconnu par la cour et le milieu artistique parisien. Voilà, à l'apogée de sa carrière, il va peindre pour des mécènes, pour des gens prestigieux comme le cardinal de Richelieu ou les ducs de Lorraine. Il sera un des notables de la ville de Lunéville. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que peu de toiles sont signées. C'est intéressant, à part les larmes de Saint-Pierre, le souffleur de la pipe et le reniement de Saint-Pierre, on sera peut-être amené à en reparler. Il va tomber dans l'oubli pendant très longtemps et il y a une renaissance de Georges de Latour qui va s'opérer aux alentours de 1915, notamment par l'historien d'art allemand Hermann Voss, hein, si bien qu'on s'est mis à faire revivre la peinture de Georges de Latour. Alors Isabelle Raviolo, les auditeurs s'en rappellent, est quelqu'un qui sait cadrer une émission de radio et qui a pensé par elle-même un découpage de notre émission et on espère que vous allez passer un certain temps avec nous. Isabelle Raviolo, la première chose que vous vouliez nous dire de cette relation hein, entre, que vous établissez entre Eckhart et Georges de Latour, c'est la, pour vous la grande thématique que vous avez nommée « Dans l'intimité de l'œil » au plus profond de l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'intimité de l'œil, l'œil qui perçoit normalement l'apparence et qui, pour vous, touche au plus profond de l'esprit ?
Oui, la question est très pertinente puisque, comme vous l'avez rappelé, il peut sembler étonnant de rapprocher ce mystique rhénan du XIVe siècle et ce peintre, Georges de Latour, au XVIIe siècle, trois siècles les séparent, mais l'éternité les rassemble. Mmh. Et relativement à la question que vous me posez, je pense que cette intimité de l'œil renvoie non pas seulement à une perception que l'on pourrait faire du motif représenté sur la toile, du nouveau-né à Marie-Madeleine en passant par le reniement de Saint-Pierre, où Job raillé par sa femme, on pourrait faire une lecture littérale des tableaux de Georges de Latour, comme on pourrait faire une lecture littérale des textes de Maître Eckhart. Mais l'un comme l'autre, comme ce sont de grands maîtres, l'un en théologie, l'autre en peinture, ils nous invitent à une lecture en creux pour l'un et à une perception dans l'intime de l'œil pour l'autre, c'est-à-dire à une attention, une qualité d'écoute. Et pour reprendre Paul Claudel, si l'œil écoute, c'est bien que l'œil doit s'ouvrir. La pupille s'ouvre au-delà du champ perceptif, c'est-à-dire au-delà de ce qui est représenté. Si la condition de l'image est une représentation, on peut se dire que Georges de Latour, par la présence de la flamme, de la bougie, va nous conduire au-delà de cette représentation. Donc quelque chose qui s'apparenterait à de l'irreprésentable.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant pour la question de l'humanité, de l'intimité, pardon, l'intimité de l'œil, c'est quand on regarde effectivement les tableaux de Georges de la Tour, on est pris dans de l'intime. C'est-à-dire que ce qui est représenté est intime. On pense à cette scène du nouveau-né, hein, qui est. Alors, on va pas dévoiler le second moment de votre intervention sur la question du rapport ténèbres-lumière. Mmh. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que cette intimité, le spectateur est déjà au cœur et au creux de cette intimité. Mais dans les tableaux, du moins. On a l'impression que Georges de la Tour veut nous associer à cette intimité.
C'est tout à fait ça. Et je pense qu'on n'a pas affaire ici à une lumière diurne solaire ou une lumière nocturne lunaire.
Oui.
Vous l'avez rappelé, on est dans une intimité d'une pièce, d'un intérieur. Et c'est pourquoi, vous l'avez rappelé dans le titre au début de l'émission, Nathalie Perrin, il s'agit des nocturnes de la Tour. C'est ce que j'ai choisi.
Oui.
Ces nocturnes disent dans cette intimité quelque chose qui a à voir avec un secret. Le secret qui s'allume ici finalement comme une lueur parce qu'il se signale sans se faire voir.
Mmh.
Ou plutôt, il se fait voir sans se rendre disponible. Donc au fond, le secret ouvre ici un espace pensable mais non compréhensible, où celui qui regarde va se découvrir comme n'étant plus chez lui, ni à lui. Donc, au fond, ici, il s'agit bien d'un regard intentionnel, Nathalie Perrin, qui doit se déplacer par anamorphose jusqu'au point assigné par le secret, où seulement là, il deviendra visible, parce qu'il deviendra reçu.
Qu'est-ce que c'est que ce secret ?
Alors, c'est intéressant, ce secret, il est annoncé comme une annonciation par la présence de la flamme. Flamme qui a une figure, une représentation différente d'un tableau à l'autre, mais qui existe comme un élément du tableau, non comme un élément de décoration ou un accessoire, mais comme une présence. Et cette présence, tenue par une main d'un personnage du tableau, alors je pense la main de la femme de Job qui tient cette flamme et qui éclaire le visage et une partie du corps de son mari, dit comme une exhortation, une invitation pour celui qui contemple le tableau d'aller plus loin que ce qui est vu. Donc finalement de dépasser la T ou l'apparence pour aller au-delà de ce qui est regardé et ainsi essayer de sentir, éprouver ce secret. Comme si on pouvait dire que le fond des toiles de la tour n'est pas noir, qu'il n'est pas brun ou qu'il n'est pas gris-perle, mais qu'il est comme une adresse, un symbole. Et c'est toute cette symbolique ou ce langage symbolique de la lumière qui nous ramène à la spécificité de ces tableaux et qui nous permet peut-être de faire un lien entre lui et la mystique Rhénane. Car au fond, Maître Eckhart ne nous dit pas autre chose dans sa théologie. Quand il prend la notion de percer, il nous dit bien de percer au-delà de ce qui est représenté, au-delà de la littéralité de la Sainte Écriture, au-delà de nos représentations de Dieu, au-delà de nos représentations de nous-mêmes et des autres. Cette notion de percée, elle est ici présentée dans les tableaux de la tour par la présence discrète de la flamme, de l'étincelle, qui serait pour moi comme la métonymie de l'étincelle de l'âme. C'est-à-dire la grande noblesse que Dieu a mise en nous. Donc on voit qu'il y a bien un lien entre le temporel et le spirituel qui dialogue ici, et qu'il y a dans cette incandescence incréée de la flamme comme le secret d'une beauté de l'âme qui ne se donne pas à voir dans une lumière criante ou blafarde, ou une lumière qui rendrait le visible, mais une lumière qui nous le fait appréhender comme un secret, c'est-à-dire comme une promesse. Alors je crois vraiment que ici, dans l'appel, je disais tout à l'heure exhortation, hein, de percer la T de cette apparence, il y va comme d'une recherche attentive, d'une écoute, où il s'agira toujours d'épurer l'image, d'aller au-delà des images. Et pour Maître Eckhart, c'est très important, cet au-delà des images, hein, puisque dans le sermon allemand 2, qui s'intitule « Jésus est entré dans un petit château », et ce petit château, c'est le château de l'âme, eh bien, il dit qu'il nomme cette petite étincelle d'une manière encore plus noble qu'il ne l'a jamais nommée. Et qu'il va même au-delà de cet attribut de noblesse, parce que c'est quelque chose d'inouï pour lui. Ça n'a pas de nom, c'est au-delà du nom. Et c'est libre de tout nom, dit Maître Eckhart dans ce très beau sermon. C'est dépourvu de toute forme, absolument dégagé et libre, comme Dieu est dégagé et libre. Donc la beauté de l'âme humaine, son abîme, son fond, rejoint la beauté de Dieu. Et dans cette correspondance, il y va d'une relation intime, et vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que la mystique ? La mystique peut recouvrir tous les sens, ça peut être un mot rustine qui nous sert à dire des envolées ou des extases, mais ça n'a rien à voir avec ça, je crois. La mystique, c'est quelque chose de très incarné, c'est quelque chose comme un tableau de la tour, justement.
Oui, qui sont des tableaux de j'allais dire de chair.
Mais complètement, c'est ça.
Sont vraiment des tableaux de chair et en même temps complètement épurés. Une forte présence des personnages. On rappelle bien à nos auditeurs que vous avez choisi, Isabelle Raviolo, les Nocturnes de Georges de la Tour, hein, parce qu'il y a d'autres tableaux, beaucoup plus clairs, beaucoup plus dans la luminosité, mais ceux auxquels nous faisons référence, c'est toujours ces tableaux, finalement, où il y a une forme de concentration autour d'une lumière qui dit quelque chose de l'âme, de la spiritualité humaine, au-delà même des apparences. Mais ce sont des tableaux incarnés, charnels. Enfin,
complètement. Et oui. C'est là le coup de génie de la tour, je trouve. Oui. Comme vous l'avez très bien dit, Nathalie Perrin, de réaliser cet oxymore entre le plus dépouillé et le plus incarné.
Tout à fait,
le plus
exactement.
Charnel. Oui, et, oui. Et c'est vraiment l'oxymore qui hante l'œuvre allemande de Maître Eckhart. Et moi, je suis très touchée par les tableaux de Marie-Madeleine, qui sont absolument magnifiques. Il en a plusieurs de ces tableaux, Marie-Madeleine à la Veilleuse, celui qui est exposé au musée Jacques Marandré, c'est celui de Washington. Et cette Marie-Madeleine, hein, elle est absolument magnifique parce qu'on la voit méditant, éclairée à la lumière d'une bougie, et son visage se reflète dans un miroir. Et on parle à travers ce tableau de l'abandon d'une ancienne vie, donc d'une transformation, et cette transformation, c'est aussi celle qui se donne à voir dans la naissance d'un nouvel homme, d'une nouvelle femme ici. Oui. La nouvelle Madeleine, c'est une Madeleine ressuscitée.
Et elle est très belle, cette Madeleine.
Elle est très sensuelle.
Elle est très sensuelle, j'allais dire, encore une fois, très charnelle, très sensuelle, très belle. On rappelle que Madeleine était finalement une fille de mauvaise vie, c'est ça ?
Ça, on n'en sait rien.
Oui, on ne sait pas, mais en tout cas, elle veut changer d'existence, elle veut retrouver une existence spirituelle, elle veut se transformer elle-même, elle veut revenir à elle.
Ça demanderait une émission, hein,
oui.
Marie-Madeleine, mais je crois que ce personnage, c'est vous, c'est moi, c'est tout homme dès lors qu'il rencontre le Christ en vérité, sa vie est transformée. Et cette transformation n'est pas une désincarnation. Mm-mm. C'est ça qui est très important.
Oui, oui.
Parce que, comme vous le disiez, il y a précisément là, dans ces tableaux, quelque chose de très mystique parce que de très incarné. Et on parle de cette femme, mais on peut parler aussi du nouveau-né. Ce très beau tableau, le nouveau-né de Rennes, qui est exposé à Rennes, qui date de 1648, et où l'on voit aussi la sensualité de cette mère qui semble venir de donner la tétée à l'enfant. Et c'est un tableau génial qui ne donne aucun signe visible du religieux et qui est l'un des tableaux les plus religieux de l'histoire de la peinture. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on voit à travers cette femme habillée de rouge qui a les yeux baissés sur son bébé langé qui semble assoupi juste après la tétée bouche ouverte, qui lui aussi, même emmailloté, a ce visage très... présent en chair, hein. Il est endormi, c'est magnifique. Hein.
Oui, il faudrait...
Ce tableau nocturne avec cette source lumineuse qui est la flamme d'une chandelle dissimulée par la main de la femme plus âgée, qui peut être Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, eh bien, on voit à travers donc cette présence de l'enfant qui concentre la lumière, qu'il y va comme d'un appel à la naissance. Cet enfant qui représente le Christ, il n'est pas seulement l'enfant représenté sur une toile ou écrit dans la péricope d'un évangile synoptique. Il est celui qui naît en nous. À quoi sert que le Christ soit né, dit Maître Eckhart, s'il ne naît en moi ? Donc tout l'enjeu est bien ici de dépasser la simple littéralité pour aller au fond, à l'esprit, c'est-à-dire dans cette intimité dont nous parlons.
Bon, eh bien, que de belles thématiques à travailler encore. On va faire une petite pause musicale et on va demander à Armand Gury, qui est de l'autre côté, de nous faire écouter cette plage musicale que vous avez choisie, Isabelle Raviolo, Lacrimosa, hein, de Preissner. Je crois qu'on l'avait déjà écouté ici à Allegre FM, mais les auditeurs s'en souviendront certainement dans notre émission. Merci beaucoup Armand de lancer la musique, merci. De retour avec nos auditeurs d'Aligre FM. Il s'agit de philosophie au présent, un partenariat entre le Collège international de philosophie et Aligre FM depuis de nombreuses années. Merci de nous écouter, chers auditeurs. Nous sommes avec Isabelle Raviolo. Nous venons d'écouter Lacrimosa de Preissner. Pourquoi ce choix, Isabelle Raviolo ?
Alors, ce choix parce que j'aime beaucoup ce compositeur polonais. D'une part, c'est celui qui a fait toutes les musiques des films de Krzysztof Kieslowski. Et d'ailleurs, je l'ai découvert à travers la filmographie de Kieslowski, que j'aime beaucoup. Parce que ce passage-là de... cette musique me rappelait un très beau tableau qui est à l'exposition Georges de la Tour au musée Jacques Marandré, Les larmes de Saint-Pierre. C'est un tableau absolument magnifique où l'on voit Saint-Pierre assis, qui verse des larmes après avoir trahi le Christ. Et ces larmes de repentir, c'est aussi les nôtres quand on prend conscience qu'on a blessé le Christ, c'est-à-dire celui qui est au plus intime de nous, notre plus profond ami. Et c'est ces larmes-là qui étaient pour moi le lien avec la musique.
Bon, merci. Très, très bel extrait en tout cas. Alors, deuxième thématique, deuxième direction que nous voudrions explorer aujourd'hui dans cette émission intitulée « L'étincelle de l'âme ou l'humilité magnanime » dans les tableaux de Georges de la Tour, avec une lecture écartienne des tableaux nocturnes de la Tour par Isabelle Raviolo. Alors, deuxième thématique que vous avez choisie, Isabelle Raviolo, « Ténèbres et lumières, l'humilité de notre humanité ». Nous parlions dans le premier moment de notre émission de ces tableaux nocturnes incarnés, faits de chair, d'humanité. Quelle est-elle cette humanité chez Georges de la Tour et comment faites-vous la liaison avec la philosophie de Maître Eckhart ?
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'épure, et vous rapprochiez sur le mode oxymorique l'épure de cette présence très charnelle, voire sensuelle, de certains personnages des tableaux de Georges de la Tour. Peu à peu, la Tour épure son geste, il va à l'essentiel, jusqu'à ce merveilleux Jean-Baptiste au désert, c'est le titre du tableau qui clôt l'exposition, qu'il réalise entre 1650 et 1652, après Georges de la Tour meurt, des suites d'une épidémie. Et cette intensité poétique du tableau, Saint-Jean-Baptiste au désert, est on peut dire même intemporel, de la présence du Saint, se déploie complètement dans le clair-obscur. Et cette lumière discrète qui va envelopper le corps du précurseur et celui de l'agneau, puisque ce tableau est une conversation entre Jean-Baptiste penché sur un agneau, représenté dans l'ombre du tableau, eh bien, c'est peut-être pour moi une manière de lire avec Maître Eckhart ce que je peux entendre de correspondance entre la ténèbre et la lumière. Et du lien entre les deux surgit l'humilité, c'est-à-dire la fragilité pour moi. Reconnaître sa fragilité et l'offrir à Dieu, c'est au cœur de cette correspondance entre les deux cousins, Jean-Baptiste et Jésus. Et pourquoi ? Parce que je veux citer un passage de Matthieu, c'est au chapitre 3 de Matthieu, verset 11, quand le Baptiste dit « Celui qui vient après moi est plus grand que moi. » Et c'est tout à fait intéressant de reprendre en arrière-fond ces paroles de Jean le Baptiste, parce que c'est lui qui annonce et qui fait place. Et ce qui est très intéressant dans la figure du Baptiste, c'est que c'est un homme qui se retire. Donc l'homme de l'humilité, comme la Vierge Marie le sera, pour faire place à plus grand qu'eux. Et dans cette manière d'être, dans cette attitude, il y a comme pour nous une exigence éthique qui se dégage. Ne devons-nous pas être à l'image de Jean le Baptiste, celui qui, dans notre âme, celui ou celle qui, dans notre âme, fait place au plus essentiel, au plus noble, à cette étincelle de l'âme qui est une présence en fait. Au-delà de la figure de l'étincelle qu'on pourrait imaginer, cette étincelle c'est bien sûr cette présence discrète de Dieu en nous. Est-ce que nous choisissons de l'écouter ou est-ce que nous choisissons de l'étouffer ? C'est toute la question, c'est tout l'enjeu de ce rapport ténèbres et lumière, c'est une façon de dire notre existence. Maître Eckhart nous le rappelle dans un sermon quand il dit que celui qui veut recevoir d'en haut doit nécessairement être en bas, en véritable humilité. Il a d'autres paroles en disant, si tu veux que Dieu entre, il faut que tu sortes. Et c'est quoi cette sortie? C'est quoi cette manière d'être en bas, sinon de faire place, donc d'écouter?
Oui, c'est très cohérent avec les tableaux qu'on a cités tout à l'heure, notamment celui avec la naissance de l'enfant. Hein, c'est de faire place à l'autre. Ouais. Mais je vous interromps momentanément, c'est parce qu'une question me venait. Bon, c'est paradoxal ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des tableaux, on pourrait dire religieux, où la figure, la présence de Dieu, de la spiritualité est très très importante. En même temps, on a des tableaux incarnés, charnels, vivants, où l'homme et la femme et l'enfant et le vieillard ne sont jamais mis à part ou minorés. Et il y a cette question de la lumière, et je dirais même de la question de la présence de Dieu ou de la spiritualité dans les tableaux de Georges de la Tour. On n'a pas du tout affaire à une lumière transcendante, tout comme on a au sens de, on entend la transcendance, c'est-à-dire qui viendrait d'en haut, qui dépasserait. Cette lumière, elle est toujours finalement intérieure, elle se fait aussi incarnante de notre humanité.
Oui, parce que souvent, elle va vous montrer la chair.
Oui.
La chair de la nudité de Job, la chair de l'enfant, ses lèvres un peu mouillées.
Oui.
C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il semble venir de téter sa mère. Cette peau de Marie-Madeleine aussi, hein,
tout à fait.
À la lumière de la chandelle. On pourrait citer d'autres exemples, mais à travers ces trois exemples, ou la maigreur hein, du corps de Jean le Baptiste, c'est bien ce que vous dites, hein, et c'est très intéressant votre question, Nathalie Perrin, parce que c'est un peintre des petites gens, avez-vous dit tout à l'heure.
Oui.
C'est un peintre l'humanité et de l'humilité de cette humanité, de l'humus, donc de la chair aussi.
Tout à fait.
Et par voie de conséquence, on peut dire que Georges de la Tour a le souci à son siècle de relier le profane au sacré.
Tout à fait.
De mettre en valeur cette réalité de ce que nous sommes dans le temporel pour souligner que Dieu est partout, que Dieu se manifeste dans la petite fille au bras zéro, hein, ce tableau magnifique qui est exposé et traverse également la dimension mystique, on dirait, ou sacrée, à savoir que Dieu se manifeste dans l'âme de toutes les personnes. Et ce n'est pas juste pour des églises ou pour des religieux. C'est tout homme qui est appelé à cette rencontre en lui-même avec ce qu'il habite, parce que c'est le propre de l'homme, cette étincelle.
Tout à fait, une étincelle qui, vous le disiez à l'instant, n'est pas réservée aux grands de ce monde. Hein.
Non.
La religion n'est pas réservée aux grands de ce monde. Je pensais tout à l'heure aussi avec cette question de la religion que vous aviez évoquée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est que le religieux, c'est le lien. Dans les tableaux de Georges de la Tour, la lumière crée du lien. Dieu crée du lien. La spiritualité crée du lien.
D'où la présence de ses mains.
Oui.
Magnifiques mains, du rapport au visage. Ces visages hein, avec leur densité de chair, ces visages avec leur présence intime qui raconte un monde, qui porte un monde.
Mmh.
Et dans l'intermonde, l'interrelation des visages, il y a vraiment l'écho de cette phrase du Baptiste. Hein, de nouveau, je reviens à lui. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le feu de la flamme, dans l'Esprit Saint.
Mmh.
Donc c'est cet esprit qui habite chaque personne et qui se manifeste d'autant mieux dans ces corps libérés d'une sorte de sérieux dans les corps qui sont les plus abandonnés des tableaux de la tour, je pense à Job, je pense au Baptiste, je pense à Madeleine, il y a des corps humbles, fragiles, qui sont vulnérables, qui ont fait place à plus grand qu'eux. Et je pense à ce tableau qui ouvre l'exposition, c'est Job raillé par sa femme.
Oui.
C'est absolument magnifique,
magnifique
ce tableau.
Magnifique,
tableau. On voit la présence immense de la femme qui tient la lumière et qui éclaire une partie du corps de cet homme émacié qui semble se poser des questions et qui est comme écrasé sous le poids de cette femme, donc de l'orgueil.
Oui.
On voit la différence de l'humilité de Job qui continue à croire et de cette femme qui lui reproche sa foi.
Mmh.
Et c'est dans la position du corps de Job, dans mise en lumière de ce corps à travers la flamme, qu'on peut lire à travers ce tableau tout l'enjeu de l'image en peinture. L'image en peinture est une icône, c'est-à-dire ce qui porte à voir au-delà d'elle.
Mmh.
Elle n'est pas l'image de nos sociétés de consommation qui nous arrête, qui nous méduse ou nous fascine, qui nous bloque.
Mmh.
Mais l'image, ici, est précisément un vecteur, c'est-à-dire ce qui va nous porter à méditer, à écouter, à être attentif à la voix qui crie dans le désert, préparer les chemins du Seigneur.
Mais oui, c'est très intéressant dans ce que vous dites. C'est-à-dire vraiment, moi, d'après vos propos et les tableaux que j'ai pu voir pour préparer cette émission, je reviens sur ce peintre aussi des petites gens qu'est Georges de la Tour. À travers ces gens du peuple, ces gens simples qui ont des vies quotidiennes qu'on imagine difficiles, y a quelque chose de la spiritualité et du religieux qui transparaît. C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire dans la représentation du religieux au sens du lien aussi et de quelque chose qui nous transcende. C'est-à-dire la transcendance est en l'homme aussi, en cet homme qui croit, en cet homme qui pense, en cet homme qui a la foi, en cet homme qui, cet être humain je devrais dire, qui s'ouvre finalement à la spiritualité.
Mais c'est ça le christianisme, l'humanité du Christ et l'écrin de sa divinité.
Mm-mm.
Et c'est celui qui est véritablement homme qui va justement rentrer en lui dans cette dimension intime et s'ouvrir à partir d'elle aux autres, qui découvrent toute la signification de son incarnation dans cette dimension, vous l'avez rappelé, du travail.
Mmh.
Alors c'est très intéressant parce que on a ce très beau tableau qui n'est pas exposé là au musée Jacques Marandré, mais qui est l'un de mes préférés de ses œuvres, hein, Georges de la Tour. C'est Saint Joseph artisan qui est éclairé par son fils Jésus, qui l'éclaire et qui regarde Joseph travailler le bois. C'est magnifique ce tableau, c'est un tableau où il y a, pour reprendre les termes de Simone Weil, la philosophe, toute une mystique du travail dans la répétition quotidienne de l'humble geste du charpentier, dans cet enfant qui éclaire son père. Alors on peut analyser religieusement le tableau, c'est Jésus qui va éclairer Joseph, mais c'est aussi Joseph qui accueille Jésus comme père adoptif et qui lui apprend son métier. Donc il y a comme une corrélation entre l'humain et le divin. On ne peut pas les séparer, comme on ne peut pas séparer le corps de l'âme. Et je crois qu'il y a un enjeu très contemporain pour nous aujourd'hui qui avons tendance à vivre de manière séparée. D'un côté, le corps qu'on peut cultiver comme un dieu ou laisser aller, et de l'autre, l'âme à laquelle on ne prête plus guère attention ou qui devient un objet de consommation comme un autre à travers le développement personnel ou le coaching. Donc on doit vraiment se dire qu'est-ce qui nous relie aujourd'hui entre les tableaux de Georges de la Tour, les textes de Maître Eckhart et nos vies affairées dans les cités. nos vies de plus en plus prises dans l'IA et les performances, eh bien peut-être un rappel à cette dimension qui est centrale dans l'œuvre de Latour, un rappel au silence.
On y reviendra, je l'espère. On va passer à notre plage musicale numéro 2, Agnus Dei de Barber. Merci Armand Gury à la technique. Merci, voilà, nous sommes de retour. On s'excuse de faire un tapis sur la musique, comme on dit dans notre jargon. Mais voilà, on a plein de choses à se dire. Et voilà, ce choix d'Agnus Dei par Isabelle Raviolo, qui a choisi les plages musicales que nous faisons écouter. Ce choix, un choix par amour de cette musique, l'Agnus Dei.
C'est une très belle musique, mais c'est un choix relié à l'exposition Georges de Latour et à ce tableau qui m'a profondément ému, que j'ai découvert à l'exposition Saint-Jean-Baptiste au désert.
D'accord.
Et Saint-Jean-Baptiste qui regarde l'agneau de Dieu avec cette croix en fond, effectivement, où il y a une relation avec la dimension la plus profonde de notre existence, avec cette part intime de notre être, qu'est l'étincelle de l'âme, et l'espace du dedans, l'antre intime où se vit la rencontre entre Jean le Baptiste et Jésus au désert.
Ouais.
C'est une métaphore très souvent employée par Maître Eckhart, le désert. Et dans ce silence, au désert, nous rencontrons l'agneau de Dieu. Pas dans le bruit ou l'affairement ou le tumulte intérieur.
Oui, on va revenir peut-être sur cette question du silence dans les tableaux de Georges de Latour. Qu'est-ce que dit ce silence, un silence qui est incarné, des tableaux qui sont peuplés. Il faudrait rappeler les magnifiques couleurs qu'il emploie. Bon, souvent des terres de sienne, des ocres, des marrons, tout ce qui indique la chair aussi, la rougeur, et qui met en valeur aussi cette lumière dont on pourrait dire que c'est une lumière immanente. Voilà, issu de Dieu, du religieux, mais du religieux en l'homme, en cet homme qui travaille à son âme, sa spiritualité. On est dans le dernier moment de notre émission, on est dans ce que vous avez nommé, Isabelle Raviolo, puisque vous êtes à l'origine de cette émission, l'incandescence incréée, la beauté de l'âme. Pour revenir sur cette singularité de Georges de Latour, nous rappelons au musée Jacques Marandré des tableaux qui peuvent s'y voir en ce moment, nous invitons nos auditeurs à y aller. Donc un Georges de Latour unique dans le paysage pictural de son temps, nous avez-vous dit. Une œuvre qui ne s'inscrit pas dans un courant. À vous lire, c'est ce que l'on comprend. Et pour vous, ça s'explique par la place que peut donner Georges de Latour à la lumière artificielle dans ses nocturnes et au rapport que vous trouvez, qui s'établit entre la flamme, et l'homme. On est donc au dernier moment de cette émission, c'est-à-dire sur cette idée qui vous tient à cœur d'une œuvre mystique réalisée par Georges de Latour en peinture.
Oui, et vous avez eu raison de rappeler, Nathalie Perrin, qu'aucune flamme ne se ressemble dans les tableaux de Georges de la Tour. Torche à mèche multiple, flamme torsadée ou grande lanterne lumineuse. Elles peuvent aussi devenir des braises rougeoyantes dans un brasero ou des tisons fumants. La flamme a une forme bien à elle, à chaque fois. Chacune a sa singularité propre et elle est voulue par le peintre lorrain qui lui confère une aura mystérieuse à travers des effets nuancés de couleurs, vous l'avez rappelé, des effets poétiques dans son vacillement aussi. C'est une flamme qui tremble. Il y met parfois quelques pointes de bleu cobalt à sa base, il travaille les jaunes, les rouges. C'est très intéressant parce que ici, chaque flamme vibre, tremble. Elle est semblable au timbre de la voix, cette flamme. Et elle est comme cette voix visible des choses elle-même, au fond. Et puis, on peut dire que c'est à travers la considération des choses simples, ordinaires, la flamme, une bougie, à laquelle les tableaux de la tour donnent accès, qui fait partie de la considération pour les hommes du peuple eux-mêmes, les joueurs de cartes, en passant par la petite fille au brasero. On voit que l'art est rencontre, et c'est pas un monde clos sur lui-même. Et donc, il permet cet art de mieux voir le sensible, tout en restant dans la sphère de la sensibilité. Mmh. C'est pour ça que la tour a quelque chose d'unique dans le paysage pictural, il me semble, dans l'histoire de l'art, parce qu'il développe cette façon de regarder bien à lui, une manière qui le distingue de son contemporain Gerrit de Honthorst, qui était surnommé Gérard de la Nuit, ou encore de Jean Leclerc, peintre d'histoire baroque, qui furent les contemporains, je le rappelle, de Georges de la Tour, et qui ont tous deux dû leur renommée à des tableaux caravagesques. Mmh. Alors, on a souvent, longtemps même, parlé du caravagisme de Georges de la Tour. Je pense que c'est très différent du Caravage. Alors, de prime abord, il y a des liens, bien sûr. Mais passé ces liens, on voit que c'est pas du tout pareil. Et que dans la spécificité de Georges de la Tour, c'est qu'il il y a quelque chose qui le détache du Caravage, c'est son traitement de la lumière, qui va davantage dans une sphère intime. C'est pour ça que c'est un peintre en correspondance avec Maître Eckhart, parce que il y a quelque chose d'extrêmement discret et de ténu dans cette manière de traiter la lumière. Et la flamme du peintre lorrain donne à l'homme humble toute sa grandeur. Et il n'y a pas la violence qu'on a chez le Caravage. Il y a vraiment un traitement du plus ténu, du plus fragile, un retour au fond de l'intériorité, à la profondeur de l'intime qui se révèle là et qui se rencontre au fond dans tout un enjeu pictural qui rejoint cette phrase de Paul Claudel que je citais au début de l'émission. L'œil écoute, et son écoute s'inscrit dans un secret, à la lueur d'une bougie. Alors, lui aussi, notre regard est appelé à se dégager du sens littéral pour aller à ce sens profond, Nathalie Perrin. Et que rencontre alors l'homme qui contemple un tableau de Georges de la Tour? Est-ce que c'est le personnage lui-même qui est sur la toile? Il serait facile de le croire. Mais l'esprit va plus loin, il va se concentrer sur la flamme, sur la lumière qui en émane. Et là, il va comprendre qu'à travers toute une scène déployée sur le tableau, il y a une présence cachée derrière la flamme. Mmh. Cette présence qui est là, qui fait vivre le tableau, c'est une présence divine, au fond, qui est, comme pour nous, aujourd'hui, quelque chose qui est resté intact en son secret. Cette conscience inviolable, on pourrait dire, qui donne à entendre une naissance à venir, une promesse.
Bon, bah, merci beaucoup Isabelle Raviolo. Voilà, on pourrait vous écouter pendant des heures sur cette chaleur de la flamme, hein, et une chaleur de la flamme humaine aussi qui transparaît dans les tableaux de Georges de la Tour. On va passer maintenant à notre petite rubrique flânosophie que notre collègue Michele Saporiti, à l'heure actuelle à Milan, puisqu'il habite là-bas.
Si. Buongiorno Michele.
Buongiorno Michele, qui nous écoute en direct et qui nous a fait un enregistrement de la flânosophie. Nos auditeurs en ont l'habitude depuis maintenant au moins un an.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Allegra FM, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie. Quatrième série, 17e Flânosophie, Tempus fugit, le temps passe vite, n'est-ce pas? Tout d'abord, rappelons-nous ce qu'est la Flânosophie. Elle est la quasi-science du divertissement intellectuel, la pratique plutôt benjaminienne de flâner dans tout ce qui procure un plaisir intellectuel. Et l'invitation est toujours la même, prenez votre temps. Flânosophie, c'est avant tout créer notre temps à l'intérieur du temps. Flânosophie, c'est fabriquer nos ailes pour poursuivre les pensées. Aujourd'hui, je vous propose de commencer cette nouvelle série par l'exploration d'un objet. Quelqu'un pourrait dire qu'il s'agit d'un objet prémoderne. Quelqu'un pourrait observer que c'est un objet charmant, destiné aux occasions particulières. Quelqu'un d'autre encore pourrait même dire que c'est un symbole d'espérance, des fois. Mais tout le monde serait bien d'accord pour affirmer que la bougie est bien plus qu'un truc sur un gâteau d'anniversaire. Alors, cher philosophe, pourquoi pouvons-nous considérer la bougie comme un objet philosophique? Avant tout, il y a sa structure. Une bougie est formée par un petit cylindre de cire, une mèche et une fois allumée, une flamme. Mais avant d'allumer, une bougie contient en puissance de la lumière, comme si une bougie qui ne produit pas de la lumière ne serait même pas une bougie. Je me demande si toute philosophie n'est pas une bougie. Une bougie dont la cire sont les concepts et les idées, dont la mèche est le raisonnement et parfois l'intuition, dont la flamme est l'objectif que toute philosophie se propose. Clarifier quelque chose, éclairer un aspect obscur apparemment clair de l'existence. La cire fond, comme les concepts sont censés devenir fluides pour que la réflexion puisse durer. Chaque philosophie semble donc attendre qu'un nouveau lecteur vienne l'allumer. Mais comment allumer la flamme d'une philosophie? Comment étendre cette flamme? Limitons-nous à la physique pour l'instant. L'étincelle qui allume une flamme a une nature variée. En philosophie, un événement historique, une découverte scientifique, un changement radical sont les étincelles donnant naissance à la nécessité de repenser l'existant. Et si une fois terminée la cire, la bougie s'étend, si sans air, la bougie également s'étend. En philosophie, les choses ne se passent pas très différemment. La pensée, qui n'a plus rien à dire en son temps, qui a terminé ses réserves conceptuelles, ses réserves d'air, la pensée qui n'a plus la capacité d'illuminer, une telle pensée s'étend et cède sa place. Mais parfois, c'est bien difficile d'éteindre la lumière de la pensée, car petit à petit, la bougie peut se transformer en dynamite. Et quelle est la différence entre une bougie et de la dynamite? La première peut illuminer, même incendier, la deuxième n'illumine pas ou n'illumine plus, car il semble inutile d'éclairer ce qui ne peut pas être changé. Il faut alors le reconstruire et avant cela, le détruire. Bougie ou dynamite, cher philosophe, la philosophie nous suggère de repenser la signification de la lumière, la puissance de la clarté conceptuelle également, la signification de l'obscurité. Peut-être la philosophie est la forme et parfois même la substance d'une bougie dont la cire s'appelle savoir et amour pour ce savoir et dont la flamme s'appelle espoir.
Merci beaucoup Michele qui a enregistré cette flânosophie qui marche vraiment bien avec cette émission qui s'intitulait « L'étincelle de l'âme ou l'humilité magnanime dans les tableaux de Georges de la Tour », une lecture écartienne des tableaux nocturnes de Georges de la Tour qu'Isabelle Raviolo a bien voulu nous proposer aujourd'hui. Nous sommes à l'heure et j'ai juste une petite annonce à faire à nos auditrices et à nos auditeurs de la part du Collège international de philosophie et d'un colloque qui va se tenir le 28 et le 29 novembre 2025 au campus Condorcet et à l'Open Space Humatech, le Collège international de philosophie à la croisée des arts et du politique. Voilà, le Collège international de philosophie existe depuis plus d'une quarantaine d'années. Et à l'occasion de ce colloque, vous pourrez retrouver les plus grands noms de la philosophie autour notamment de gens comme Madame Fraisse, la grande philosophe, voilà, j'en passe, et des meilleurs. Vous regarderez sur le site internet du Collège international de philosophie. Voilà, je vois Christiane Voller que nous avions reçu ici aussi. Voilà, vous regarderez Thomas Hirschhorn, le grand artiste. Voilà, ce colloque qui se tiendra le 28-29 novembre 2025 sur le Collège international de philosophie. Merci à tous les auditeurs d'Aligre FM. Merci Isabelle Raviolo.
Merci beaucoup Nathalie Perrin. Merci à tous.
Voilà, et puis nous vous invitons à aller sur le site d'Aligre FM, à faire des dons. Tout don peut nous aider à faire tout un tas d'améliorations. On en a besoin, on est une association, messieurs, dames.
Oui, voilà. Ce serait super.
Merci beaucoup. Allez, à très bientôt pour Philosophie au présent sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.